Alors, je profite que les enfants soient avec nous ce matin parce que de démarrer une nouvelle série, alors c'est pas une série qu'on va suivre tous les dimanches, mais c'est une série qui va venir de temps en temps pour essayer de nous éclairer un peu. Et cette série, elle accompagne l'idée de marcher avec les autres, de comprendre comment on vit l'Église, et c'est la série des pourquoi. Pourquoi, et c'est les enfants, ils posent des fois des questions à un certain âge. Pourquoi on fait telle ou telle chose? Et ce matin, pourquoi on fait telle ou telle chose dans l'Église? Et ce matin, c'est la question pourquoi on fait la scène? C'est pour ça que je les ai mis là, les éléments. Pourquoi on vit ce moment? Pourquoi on partage ces éléments? Un peu étrange d'ailleurs de le faire. On a dans l'habitude dans l'Église dimanche après dimanche. Hein, les enfants, on va essayer de réfléchir ensemble pourquoi la scène. Et vous les adultes aussi, parce que je crois que c'est un sujet qui mérite qu'on s'intéresse un peu. On connaît tous, pardon, enfin probablement le célèbre tableau de Léonard de Vinci qui représente cette première scène, ce premier repas du Seigneur, ce repas que Jésus prend avec ses disciples. Alors, je crois que rien ne ressemblait, enfin le repas original ne ressemblait pas à cela, c'était pas une grande salle. Ils n'étaient pas assis en ligne comme ça, sagement sur une table. Mais je crois que c'était une pièce beaucoup plus modeste. Ils étaient assis en rond, probablement assis par terre. Et pour nous aider, j'aimerais simplement prendre un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 22. Je vais vous prendre à partir du verset 7, de 7 à 20. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute aménagée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent, trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit et préparèrent la Pâque. L'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et le leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Jusqu'ici. Alors, cette scène, ce repas est au cœur de la foi chrétienne. Et c'est un moment décisif. Mais avant de vous donner quelques exhortations, je vous préviens, le sujet de la scène, du repas du Seigneur est tellement grand, tellement précieux, que je crois que je ne pourrais pas faire le tour ce matin de la question. Et ce n'est pas mon intention. Il y a tant et tant de choses à dire. D'ailleurs, c'est un sujet qui suscite parfois des controverses, voilà, des disputes, on n'est pas tout à fait d'accord. Et comme souvenir, dans 1 Corinthiens 11, on avait déjà traité la scène. Donc si vous voulez avoir d'autres éléments, je vous invite à réécouter la prédication qu'on a donnée sur 1 Corinthiens 11. Mais ce matin, je vous propose de regarder quelques autres éléments essentiels autour de la scène et essayer de nous émerveiller de ce repas. De nous émerveiller de ce que Dieu nous donne. Et j'aimerais commencer par une question. J'aimerais vous inviter à vous imaginer que notre Église, on cesse de vivre la scène. Ça veut dire que, sans vous le dire, sans prévenir, dimanche prochain et les fois suivantes, on ne fait rien. On va chanter, on va lire la parole de Dieu, on va prier, on va partager fraternellement autour, ensemble, mais pas de repas du Seigneur. Combien de temps faudrait-il pour que on remarque quelque chose? Bon, Mathieu, je sais, tu vas tout de suite venir me voir. Mais est-ce que ça nous manquerait dans nos vies personnelles? Est-ce que ça nous manquerait dans notre vie ensemble? C'est la question. Est-ce que c'est important? Alors pour comparer, je me suis dit, ce serait bien de poser la question, une autre question, un peu du même style. Si ça concernait le chant. Encore une fois, sans prévenir. Dimanche prochain, plus de groupe, plus de piano, plus rien. On chante plus. On va prier. Oui, on va dire la parole de Dieu. Mais plus de musique. Et je vous repose la même question, combien de fois on va attendre avant de me dire quelque chose? Je ne suis pas sûr qu'on est à la moitié du culte, que certains vont venir me voir, Josué, il y a un truc qui ne va pas là. Est-ce que ça nous manquerait personnellement si on ne chanterait plus? Et collectivement? Je pense que on serait plus rapide à réagir avec le chant que la Sainte Cène. Parce que c'est tellement, parfois mystérieux, on pourrait dire. On a parfois du mal à imaginer. Et pourtant, la scène est un des moyens de grâce que Dieu nous a donné. Et j'ai donné comme titre, à les enfants, hein, je crois que c'est un trou dans votre feuille, un cadeau. La scène est vraiment un cadeau pour cultiver notre foi, pour la nourrir, un moyen de grâce, pour nous aider dans notre marche de tous les jours, pour nous rappeler l'Évangile, pour nous rappeler ce qu'on vient de chanter tout à l'heure. Et pourtant, la Sainte Cène, ce n'est que du pain et du jus de raisin. Ce n'est que du pain et du jus de raisin. Quoique. Mais nous croyons, et par rapport à la lecture de la parole de Dieu, nous croyons que Christ manifeste quelque chose de particulier durant ce moment-là. Un moyen de grâce pour nous encourager, un cadeau pour cultiver notre foi. Et j'arrive au premier point que j'aimerais simplement soulever avec le texte de Luc, c'est que, en fait, la scène, elle est enracinée, vous l'avez entendu, dans un autre repas, dans un repas qui est passé. Et je trouve que c'est extraordinaire, la manière dont Jésus, la manière dont Dieu a voulu les choses. On le voit dans le contexte de Luc 22, Jésus prend son dernier repas autour d'un autre repas qui était important à l'époque, le repas de la Pâque. C'est aussi un trou, je crois, de vos feuilles. Luc 22, 15, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Jésus, pour ce dernier repas avant de mourir sur la croix, il désire vivre cette Pâque. Alors on pourrait se dire, qu'est-ce que c'est la Pâque? Et je ne vais pas le détailler parce que c'est tellement riche. Mais c'est un repas historique à l'époque pour les Juifs. Depuis des siècles, on considère depuis 1400 ans, imaginez-vous, depuis 1400 ans, on fête année après année, c'est une fête de une fois par an, on fête la Pâque. Un repas qui raconte une histoire puissante, qui raconte l'histoire de Dieu qui libère son peuple de l'esclavage par l'intermédiaire de Moïse. Et comment il les a délivrés? Vous vous rappelez, les enfants, à travers d'un sang qui a été tué et on a mis le sang autour des portes. Et comme ça, les maisons où il y avait du sang autour des portes ont réchappé, les familles étaient protégées et la mort ne frappait pas tout premier-né. Et Dieu leur a donné pour ne pas oublier ce repas de la Pâque, se rappeler de la délivrance, de ce cadeau, de cette vie, de cette libération. Et si vous voulez voir les détails de cette fête, je vous invite à lire Exode 12, on ne va pas le faire ce matin, mais Exode 12 rappelle pourquoi il y a ce repas et comment ce repas devait être pris. Et il est intéressant parce qu'il y a du pain, il y a du vin, il y a plein de choses. Mais c'était un repas, la Pâque, c'était un repas où le peuple devait se rappeler de la délivrance de Dieu. Et donc, Jésus choisit ce moment-là pour raconter une autre histoire à travers un moment fort où on se rappelle que Dieu nous a délivrés. Et Jésus est en train de montrer qu'il y a encore une meilleure Pâque qui est en train de se préparer. Il y a encore une plus grande délivrance, il y a une plus grande histoire. Il vient nous délivrer. Jésus lui-même va se livrer comme un agneau. C'est pour ça qu'on chante « Agneau de Dieu ». Il va se sacrifier pour les hommes. Il devient l'agneau. Il donne sa vie sur la croix pour sauver tous les hommes. Une délivrance encore plus grande. Et même si les disciples ne le comprennent pas, voilà le contexte de cette histoire. La scène, elle se place dans un moment où Jésus va montrer qu'en fait, ce qui est en train d'être vécu, c'est quelque chose d'énorme. C'est l'histoire du salut avec les hommes. Voilà le cadeau que Jésus nous fait. Avec un repas, il veut qu'on se souvienne constamment que Dieu sauve, que Dieu sauve, que Dieu veut faire de nous un peuple, qu'il délivre. Alors Jésus, pour nous aider à nous souvenir qu'il est mort là et qu'il est ressuscité, il ne nous donne pas une formule magique, il ne nous donne pas un poème, il ne nous donne pas un souvenir, il ne nous donne pas une date, juste une date, mais il donne un repas qu'il partage avec ses disciples, un repas. Juste du pain et du raisin. Des éléments simples. Et dans l'évangile de Matthieu, Matthieu il dit « Buvez-en, mangez-en, c'est quelque chose d'important. Du pain et du vin, simplement, ou du jus de raisin. Comment manger un bout de pain et boire un jus de raisin devrait nous aider à nous souvenir de Jésus, de la croix. On pourrait dire beaucoup de choses. Mais je crois qu'un des éléments, c'est que le fait qu'on puisse toucher, le fait qu'on puisse goûter, c'est des émotions là. On touche quelque chose, on palpe, on voit une couleur. Ça stimule la mémoire, on est d'accord. Quand le jus est froid et qu'il est sorti du frigo, on le sent, le jus de raisin. Quand c'est de l'alcool, on le sent. Quand le pain il est un peu mou, on le sent. Peut-être un peu rassis, on le sent. Ça stimule. Et c'est vrai qu'on a des sensations. Avec toutes nos émotions, Dieu nous a créés avec des papilles, la possibilité de goûter. Je crois que si vous rentrez dans la cuisine de votre maman et qu'elle est en train de vous cuisiner, il y a plein de souvenirs qui peuvent revenir. On sent le bon repas. Peut-être la table dressée, il y a des souvenirs de notre enfance qui viennent quand vous visitez vos parents par la suite. Il y a des chances que des odeurs, des bruits, des gestes peuvent vous ramener à des souvenirs, à des choses vécues, à des moments heureux, peut-être des moments peut-être plus difficiles. On a tous des exemples comme ça. On n'a pas besoin de réfléchir. Et Jésus le sait, Dieu le sait, on est des gens qui oublions. On oublie. Et pour éviter d'oublier, il nous donne des choses qui vont nous aider à ne pas oublier. Pour ne pas oublier son salut, par ne pas oublier ce cadeau. On est tellement bombardé d'autres choses dans notre quotidien. Et Dieu nous donne ces choses-là pour ne pas oublier, pour nous souvenir de lui. C'est quelque chose de physique, ce pain et ce vin. Et moi, c'est vrai que ça fait tellement. On prend l'habitude hein, si on le fait dimanche après dimanche. Et quand maintenant, si je devais associer du pain et du vin, je crois qu'automatiquement dans ma tête, je vais faire un lien avec l'évangile, je vais faire un lien avec la croix. Il y a quelque chose qui se passe. Je me souviens que Dieu m'a touché. Et c'est comme ça que cela doit être, un souvenir, un moyen. La scène est enracinée dans une histoire qui me parle de Dieu, qui me parle de Dieu qui sauve, mais qui me parle de Jésus sur la croix. Et aujourd'hui, on n'est pas simplement des spectateurs en train de regarder, mais on est vraiment acteurs, on participe avec les autres. Alors, je n'ai pas le temps de développer, hein, mais la scène fait aussi écho, d'ailleurs, le repas du Seigneur à tous les autres repas que Dieu prend avec les hommes. Il y a plein de moments dans la parole de Dieu où il y a des repas entre Dieu et les hommes. Et ça fait écho, et la scène fait écho à cela. Deuxième élément que j'aimerais voir avec nous ce matin, la scène est aussi un avant-goût d'un festin à venir. Et on le voit dans les versets 16 et 18. Jésus anticipe un autre moment. Au verset 16, dans Luc, on dit « Je ne mangerai plus de ce repas jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » C'est quelque chose de fort là qu'il est en train d'annoncer. Ce temps n'est pas simplement un souvenir, ce repas. Ce n'est pas quelque chose juste dans le passé, mais c'est quelque chose qu'on doit cultiver parce qu'il nous fait penser à quelque chose qui est devant nous. On a un autre rendez-vous. Il y a une espérance. « Je ne mangerai plus de ce repas. » Jusqu'à ce que le royaume, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que je serai revenu. Et ce repas, mes amis, nous oriente aussi vers devant, vers l'avenir, vers un grand festin. C'est pour ça que j'ai mis un festin. Un repas, mais un festin où tous les rachetés, où tous les croyants, tous les gens qui auront reconnu Jésus-Christ vont se retrouver autour de Jésus, autour de la table. Et la Bible évoque à de nombreuses reprises que ce banquet il est splendide. Il est splendide. J'aime particulièrement le passage d'Ésaïe qui dit « Sur cette montagne, hein, pour un peu l'imager, le maître de l'univers, c'est ce que dit Ésaïe 25, hein, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents pleins de moelle, de bon vin clarifié. Et sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. » Ésaïe, autrement, est en train de nous dire, il y aura un festin. On va se régaler. Et d'ailleurs, un moment de joie où il n'y aura plus de plaintes, il n'y aura plus de souffrances, nos cœurs meurtris ne seront plus là, il y aura de la joie. Jésus revient et Jésus va nous restaurer. On regarde en avenant vers un avenir glorieux. Et on célébrera le salut achevé, la délivrance achevée. Et en fait, la scène, c'est un avant-goût de cela. Ce n'est pas simplement une cérémonie, mais c'est un signe d'espérance. Parce qu'on espère quelque chose. Il va revenir, mais on va aussi être restauré dans nos corps. Il y a aussi l'idée de la dimension physique de notre corps restauré, où il n'y aura plus de péché. Amen. Donc, imaginons, nous, ce grand banquet. Un banquet où il y aura toutes les nations, on l'a dit dimanche dernier, tout peuple, toute langue. Et je trouve ça extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on est appelé à témoigner. C'est pour ça qu'on est appelé à partager cela. Parce qu'il y a quelque chose où tout le monde sera réuni, où il y a la possibilité. Heureux ceux qui seront appelés au festin des noces de l'agneau, nous dit Apocalypse. Moi, ce que je trouve bizarre, je sais pas vous, on parle d'un repas, d'une sainte scène, mais c'est un petit bout de pain, là. C'est un petit gobelet, là. Moi, je trouve que c'est ridicule. Enfin. Et en même temps, je trouve ça riche. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle qu'en fait, c'est que l'avant-goût, les petites miettes, parce que ce qui nous attend est bien mieux après. Alors, oui, on pourrait se dire, c'est pas vraiment un repas, on pourrait le faire vraiment autour d'un repas. Mais en fait, c'est pour nous dire, il y a quelque chose, il y a encore un meilleur repas qui nous attend. Parce que notre vie n'est pas ici-bas, elle nous attend. On est passagers, c'est un autre débat. Mais voilà, je trouve ça extraordinaire. Alors oui, nous, aujourd'hui, on a l'habitude à Wittenheim de prendre un petit morceau. On se le départage des fois même encore en deux pour notre, quand on est en couple. Mais c'est un avant-goût d'un repas encore beaucoup plus majestueux. On n'est pas seul. On est lié à des millions et à des millions d'autres croyants. Alors, une petite parenthèse. Les enfants, ils ont un point d'exclamation, là. On est à ce moment-là de la feuille. Un point important qu'on ne pense pas toujours, mais qui est essentiel aussi quand on prend la scène, c'est aussi un autre élément que Dieu nous a donné, c'est le baptême. C'est vrai parce que la scène n'est pas en soi un repas pour tout le monde. Enfin, c'est une invitation pour tout le monde, mais tout le monde n'a pas encore à y prendre part. Parce que, on vient de le dire, la Pâque, on se souvient de quelque chose où Dieu nous a délivrés. On se souvient que c'est quelque chose où un jour on va le retrouver, et ça c'est que des personnes, des hommes et des femmes qui ont accepté à un moment donné de se dire « bah oui, Jésus-Christ est mort pour moi, j'appartiens à ce corps ». Et le baptême, en fait, est précisément ce moment où Dieu nous a donné qui marque un peu l'entrée dans la famille, dans le peuple, en tant qu'enfant de Dieu. Le baptême montre que oui, le sacrifice est important pour moi et je le déclare, je suis maintenant un disciple de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ a été cloué pour moi. Oui, j'appartiens à l'Église, à la communauté maintenant des croyants. Et je le manifeste comment? Par le baptême. Alors ça veut dire qu'on ne prend pas la scène simplement par habitude ou par foi, mais on le fait parce qu'on appartient à un peuple qui se reconnaît autour du sacrifice de Jésus. Et on l'a manifesté par cette première étape du baptême. Et c'est là où ça me permet de dire, mais en fait, le baptême, c'est pas un rite qui montre qu'on a plusieurs années d'expérience avec le Seigneur. Non, le baptême, c'est le début. C'est pas quand on est assez mûr dans la foi, quand on a assez compris la croix, parce que je crois qui aurait assez compris ce que le Seigneur a fait pour nous. Non, c'est le début de la vie chrétienne. Le baptême, c'est le début. Vous croyez en Christ? Faites-vous baptiser. Il n'y a rien qui devrait, aucune raison valable pour ne pas se faire baptiser, en dehors de ne pas avoir la foi. Sinon, peut-être, parfois, l'âge. Il y a des enfants parmi nous. On peut réfléchir à la question de l'âge, mais Vous avez cru que Jésus est mort pour vos péchés, ben prenez le baptême. Et la scène vient après, bien évidemment, comme un repas dont on est invité à se rappeler de ce que Dieu a fait, se rappeler peut-être de notre baptême. Alors si vous n'êtes pas baptisé, c'est une petite invitation qu'on fait de temps en temps, et que vous prenez la scène sans comprendre, ben, je vous invite à réfléchir. Mais pourquoi pas le baptême dans ma vie? Pourquoi? Voilà. Et peut-être à laisser passer. Le baptême et la scène vont ensemble. J'aimerais poursuivre, comme l'exprime ce chant, la scène est, enfin, en troisième élément aussi, une célébration de la grâce aujourd'hui. Je relis les versets 19 et 20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et leur la donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Voilà le cœur du message que Jésus nous laisse autour de la scène. La scène parle, nous encourage à parler de Jésus aujourd'hui. Ce pain n'est pas juste un morceau de pain, c'est le symbole de son corps qui a été donné pour nous, sa vie offerte pour notre salut. Et ce sens prend sens dans le corps de Christ. C'est réaliser à quel point on dépend de lui, de Christ, pour aujourd'hui, pour vivre aujourd'hui. C'est cela quand on veut se souvenir de la scène, on veut se souvenir qu'on a besoin d'être nourri par lui. Cette coupe, ce n'est pas juste du vin ou un jus de raisin. C'est le symbole extraordinaire de son sang qui a été versé. Alors c'est un peu gore comme image, mais c'est pour se rappeler qu'il a été nécessaire qu'un sacrifice soit offert pour mon salut. Une fois, Dieu a condamné Jésus à ma place et il l'a accepté parce qu'il est ressuscité. Et c'est ce qu'on se souvient en prenant ce pain et ce vin, c'est on se souvient de cela. Ça veut dire que Jésus a accepté. Quand il laisse ces éléments, il est prêt à accepter ce chemin-là, ce salut, cette manière de montrer combien et comment il nous aimait et comment il nous avait envie de nous libérer. On aurait dû mourir, nous, à cause de nos fautes, mais lui est mort à notre place. Une alliance nouvelle, une nouvelle relation. Rappelez-vous ce que Paul a dit dans Corinthiens. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On a les mêmes éléments qu'on vient de voir. Vous annoncez, vous célébrez, vous rappelez ce que Christ a fait. Et en fait, manger ensemble et prendre ce pain ensemble, c'est proclamer notre foi dans ces éléments-là. C'est reconnaître que oui, il est mort pour moi. Et qu'en lui, j'ai une vie éternelle, une assurance. Je l'évoquais déjà, hein, c'est pas juste une expérience personnelle. On partage ce pain. On est un seul corps en Christ. On se reconnaît tous tributaires de cette œuvre-là. Manger ensemble, partager ensemble ces éléments-là, il n'y a aucun sens de le faire chez nous. Il y a du sens à le faire avec d'autres. Une église où on se reconnaît autour de la même foi, autour du même attachement, autour de Jésus-Christ. Et ce repas-là est là pour nous rappeler « je fais partie de la même famille ». Et là pour me rappeler du même besoin de la croix. Et elle est là pour célébrer la grâce, célébrer son cadeau de la foi. C'est pour les chrétiens, c'est pour ceux qui ont choisi ce chemin-là, qui ont fait de Jésus le chemin, la vérité et la vie. Alors bien sûr, parmi nous, il y a des non-chrétiens. Et c'est une joie de vous avoir avec nous. Mais la scène, elle est là pour ceux qui ont accepté. Et elle est là aussi pour tous, pour nous rappeler de dire qu'est-ce que je fais de cela, qu'est-ce que j'en ai fait. Et c'est pour ça ici à Wittenheim, je disais pourquoi on a l'habitude de se lever. Et c'est vrai que c'est peut-être choquant pour ceux qui n'ont pas envie de se lever. Mais en fait, on se lève parce qu'on veut manifester, oui, pour moi, c'est quelque chose qui a du sens. J'ai pris position pour le Seigneur. Ça me coûte de me lever. Et ce n'est pas que pour moi, parce que je vais me lever avec d'autres. C'est aussi pour toi, toi et toi, qui es autour de moi. C'est un signe communautaire très fort, qui nous rappelle qu'on est bénéficiaire de la grâce. Et on le fait ici aussi régulièrement que possible parce qu'on veut se souvenir aussi régulièrement que possible comme l'ont fait les premières églises, dans les Actes par exemple. Et en même temps, on veut être réaliste, on ne comprend pas parfaitement tout ce qu'il y a derrière ce beau symbole. On ne comprend pas parfaitement tout ce salut, tout ce que Dieu a dû faire. Moi, après plus de 20 ans avec le Seigneur, encore aujourd'hui, je reste émerveillé par ce que cela veut dire. Parce que cela veut dire pour moi. Et si on avait vraiment tout compris, enfin, si on devait attendre qu'on ait vraiment tout compris, on ne le prendrait pas, ce repas-là. Soyons terre à terre, hein. Il y a des semaines où c'est difficile, où tout semble plus compliqué, où les mots ne résonnent pas, où il y a la fatigue qui pèse. On n'aime pas les chants que l'équipe a proposés ce dimanche. On s'ennuie durant la prédication. Soyons honnêtes, je sais que ça arrive. Mais il y a d'autres semaines où les chants nous touchent. Il y a des semaines où une lecture biblique nous a fait du bien. Il y a des semaines où le Saint-Esprit, pendant la prédication, nous a convaincus de quelque chose. Où le Seigneur a peut-être à un moment donné révélé le poids de mon péché, le poids de ce qui n'est pas en règle avec lui. Mais dans les deux cas, la scène est là pour nous. Pour nous rappeler qu'en fait, nos sentiments n'ont rien à voir. Nos sentiments n'ont rien à voir de ce qui est vrai. La Bible nous dit que si nous avons la foi en Christ, nous ne sommes plus pécheurs. Et l'apôtre Paul ne parle pas de chrétiens pécheurs sauvés par la grâce, il parle de saints. Il parle de personnes qui ont reçu un jour le salut et qui on en est bénéficiaire pour tout le reste de notre vie. En fait, nos sentiments n'ont rien à voir normalement dans ce que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas parce qu'on a échoué la semaine, ça ne change rien de ce qui est vrai. On est enfant de Dieu. Parce que quoi ? Dieu nous dit avec cela, je vous ai déclaré juste. C'est là que ça s'est passé. Vous êtes saints, vous êtes parfaitement libérés. La délivrance, elle est actée une fois pour toutes. On n'est pas tous les dimanches en train de reclouer Jésus. Non, il est une fois pour toutes, il a tout payé. Son alliance, son engagement, on fait partie de la famille une fois pour toutes. Ça ne change pas. Christ est toujours là. Alors la Sainte Cène doit être là simplement pour se dire, oui, c'est vrai, c'est quelque chose pour moi. Que je ne me sente pas bien avec le Seigneur ou pas, ça rappelle que je suis un enfant de Dieu et que je me souviens de ce qu'il a fait, et qu'il m'a aimé, que je suis sauvé, que je suis délivré, que ma foi repose sur un roc solide. Jésus est mort pour moi aujourd'hui, il est vivant et il règne. C'est ce que je me rappelle en prenant ces éléments-là. Le Seigneur a été donné une fois pour toutes. Je termine. La scène, c'est un cadeau pour cultiver notre foi. Chaque semaine, on veut se rappeler. Tout est accompli. C'est un moment de grâce où il veut continuellement nous rappeler la beauté. Et je crois que quelle meilleure façon de terminer ce message autour de la scène. Et pendant qu'on va prendre la scène, j'aimerais simplement nous inviter à réfléchir à trois choses. Et c'est en lien avec ce plan. Tout d'abord, regardez en arrière. Pensez à votre passé, à la fidélité de Dieu dans votre vie. Peut-être rappelez-vous de votre baptême, de votre engagement à suivre Christ. Peut-être rappelez-vous ce poids que vous avez, qui est tombé quand vous avez tout déposé à la croix. Je rappelle, le baptême précède la scène. Si vous êtes engagé dans une démarche de baptême, vous êtes invité de prendre la scène. Mais si vous n'avez aucune intention de vous faire baptiser, ne prenez pas la scène. Les deux vont ensemble, mais réfléchissez. Réfléchissez à cette histoire passée. Qui veut quelque chose dire pour aujourd'hui? Un deuxième élément, regardez en avant. Pensez à l'avenir. Aujourd'hui, tout n'est pas rose. C'est parfois compliqué. Ce repas, enfin, ces miettes, comprends, c'est pas le repas en soi. Ce qui nous attend est bien meilleur. C'est l'occasion de nous rappeler, en fait, on n'est pas tout seul, on va être ensemble. C'est un repas de famille. C'est un partage, c'est une communion, c'est un témoignage d'unité quelque part en prenant ce repas ensemble. et en se privant de venir ensemble partager physiquement, on se prive de bien des bénédictions. On se prive de regarder ensemble vers devant. Et bien sûr, on peut regarder autour de vous. Parce qu'on comprend la scène, on se rappelle, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. C'est pas juste un moment entre moi et Dieu. C'est pas juste un moment personnel. C'est un repas de famille, je l'ai déjà dit. Et c'est un moment ordinaire, quelque part, en prenant... On a l'habitude, hein, mais c'est un moment qui veut être extraordinaire parce qu'il veut rappeler toujours à nouveau la beauté et la grâce de l'Évangile, de cette unité, de ce que Christ a fait. Jésus est présent et il veut continuer à nous encourager, à grandir dans notre attachement à lui. Alors, je demanderai à Matthieu, si tu veux bien, pour m'aider à distribuer les éléments, mais j'aimerais avoir une pensée pour ceux qui n'ont pas fait encore ce choix. Je vous invite vraiment à laisser passer ces éléments-là. Pour tous ceux, bien sûr, à vous lever, tous ceux qui ont reconnu avoir eu besoin du sacrifice, avoir besoin aujourd'hui de ce que Christ a fait. Et j'aimerais simplement laisser pour ceux qui n'ont pas encore réfléchi à cela. Je voudrais vous laisser simplement deux prières derrière moi. Une prière peut-être à prononcer si vous cherchez la vérité. Si vous vous dites, je ne sais pas si Dieu existe, si Dieu est vrai. Et une deuxième prière, peut-être une prière de foi qui dit oui, je crois, et qu'est-ce qui me retient d'avancer plus loin? Une prière de foi. Si vous décidez de prier ces prières-là dans le secret de vos cœurs, ou si vous souhaitez en parler, je suis disponible, Mathieu est disponible, Michel est disponible, on est disponible aussi pour vous aiguiller, pour vous accompagner dans vos réflexions, scène, baptême et tout ça, on est là. Mathieu, je t'invite à louer, et je vous invite vraiment tous ceux qui reconnaissent avoir besoin, eu besoin et besoin de la grâce, à venir partager avec moi, avec nous, ensemble, les éléments. Je vous invite vraiment à vous lever, tous ceux qui ont reconnu le Seigneur Jésus.